Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu, ce matin encore, tu es venu nous rencontrer et nous sommes venus pour te rencontrer. Merci d'avoir touché nos cœurs, réchauffé nos cœurs dans ce moment avec toi. Seigneur, tu connais, tu vois ce paradoxe dans nos vies. Nous désirons vivre dans ta maison et puis nous ne faisons pas forcément ce qu'il faut pour. Et en même temps, nous savons que c'est toi qui donnes de la saveur, de la couleur, du goût à nos vies. Alors viens au secours de notre incrédulité encore ce matin. Viens au secours de toute notre pauvreté pour encore nous rencontrer dans ta richesse, pour réchauffer nos cœurs. Nous voulons encore expérimenter ce matin ce qu'ont vécu tes disciples le jour de ta résurrection, ce qu'ont vécu les pèlerins avec qui tu marchais sur ce chemin d'Emmaüs. Nous voulons que nos cœurs brûlent à ta parole, Seigneur. Merci d'accomplir ce miracle par ton esprit encore ce matin. Amen. J'aimerais vous lire quelques passages des Écritures, tout d'abord pour commencer. Vous les connaissez, mais on va les lire ensemble. Tout d'abord, dans Genèse, chapitre 22, versets 7 et 8. Pour situer l'histoire, vous savez, c'est lorsque Dieu demande à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. Alors, ils partent de bon matin, ils prennent un âne, ils mettent le bois dessus, le couteau, le feu. Puis Abraham demande à son fils de venir, mais ils n'amènent pas d'agneau. Et puis alors, Isaac, verset 27, Genèse 22, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils !» Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvura lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Ensuite, un autre passage dans le livre de l'Exode. Donc là, il s'est passé pas mal d'années. Le peuple d'Israël, la semence d'Abraham est devenue un grand peuple. Et puis, ils sont prisonniers en Égypte et Dieu va les faire sortir. Dans Exode 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut en manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, car c'est la Pâque de l'Éternel. Puis un troisième passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 29. C'est Jean-Baptiste qui parle. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Je l'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous ?» Ils répondirent « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Cette fête que nous célébrons aujourd'hui, donc, était inscrite dans l'histoire du peuple d'Israël depuis l'histoire d'Abraham, déjà avec son fils. Et puis après tout, les lois qui ont été données à Moïse, la sortie d'Égypte. Et pour le peuple d'Israël, elle avait une valeur très précise. La symbolique était très 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 forte. Hein. Pour nous, on connaît la tradition, mais c'est vrai que Pâques, maintenant il y a autant de canards et d'œufs que de moutons ou d'agneaux. Ouais, on sait qu'il y a un long week-end, oui, Jésus est ressuscité, mais on a bien sûr pas tout le poids de cette culture où pendant plus de 2000 ans, il y avait cette attente de l'agneau de Dieu. Cet agneau qui, déjà, le jour de la Pâque, vous connaissez l'histoire, hein, avait été, donc, comme on l'a lu, sacrifié, son sang était mis sur les linteaux, et l'ange qui est passé pendant la nuit, c'est la dernière plaie, rentrer dans toutes les maisons pour tuer le fils premier-né, sauf dans les maisons où le sang était sur le linteau. Et donc ils étaient protégés, ce qui était déjà une image de ce que Christ allait faire pour nous. Et puis, cette image a continué, a été renforcée. Mais lorsque Jésus vient et que Jean-Baptiste fait cette déclaration, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il y a une chose qui est très très différente, ça apparaît peu dans nos traductions, mais dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un allait pour l'expiation de ses péchés au temple, alors il prenait ou l'agneau, ou on pouvait prendre un autre animal, mais souvent c'était un agneau, hein, il posait sa main sur sa tête, qui symbolisait qu'il mettait ses péchés dessus, puis on égorgeait l'agneau, et les péchés étaient cachés, hein, l'expiation, on mettait de côté. Mais lorsque Jean-Baptiste parle de Jésus et qu'il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », le mot qu'il utilise ne veut pas dire juste « recouvrir », hein, avec le sang de l'agneau, mais veut dire « il l'enlève », ça disparaît. Et c'est tellement fort, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais moi en relisant ce passage, ça m'a quand même interpellé. Ces disciples-là ne savent rien sur Jésus, hein, ils ne savent pas qui il est. Simplement, Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il quitte tout et il le suit. Certains disciples, Jésus a été les chercher. Il est allé les appeler en disant « Toi, suis-moi. » On sait que c'était, là aussi, ça nous surprend, mais c'était une pratique, ça se faisait. Hein. Un maître choisissait des disciples, il allait les chercher, puis c'était un honneur, il les suivait. Mais là, carrément, les disciples entendent cette déclaration « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et ils sont tellement bouleversés qu'ils décident tout seuls de le suivre. Et c'est quelque chose qui est très très fort. Et je pense que là aussi, on a perdu beaucoup de ce sens, hein, parce que on n'a pas compris ce que ça voulait dire. Hein. Enfin, moi non plus, hein, mais on va toujours le redécouvrir, que Christ est mort à notre place. Hein. Richard Wurmbrand, vous savez, ce pasteur roumain qui a vécu sous la persécution en Roumanie, raconter cette histoire. À l'époque du communisme, il fallait faire des fois rester dans une file d'attente pendant 10-12 heures pour espérer avoir peut-être un peu de lait ou un peu de beurre ou un peu de viande. Donc les personnes âgées commençaient de faire la file d'attente le soir à 7-8 heures, puis vers 4 heures du matin, il y avait les parents qui arrivaient, puis les petits-enfants venaient après, et puis peut-être vers midi le lendemain, on arrivait au bout, quoi. Et il raconte comment une fois, c'est une histoire qu'il a vécue, quelqu'un se tenait dans la file d'attente comme ça, et puis il était en 3 ou 4e position, puis c'était, il restait plus que 2-3 heures avant l'arrivée, et puis on voit arriver une personne âgée qui arrive doucement, hein, et puis qui se met au bout de la file. Puis tout le monde savait très bien que quelqu'un qui arrivait au bout de la file à cette heure-là, elle aurait rien, il n'y aurait plus rien dans le magasin avant qu'il arrive au bout. Puis la personne qui était en 2e ou 3e position voit la personne venir et dit « Madame, madame, venez, je vous laisse ma place. » Puis elle la fait passer devant et elle recule d'une place. Puis là, tout le monde commence à gronder dans la foule et dire « Non, 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 si vous lui donnez votre place, vous prenez la sienne. » Et la personne, je ne sais pas si elle était contente ou non, mais est partie au fond, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu ce qu'il y avait, quoi. Elle est probablement rentrée chez elle. Nous avons l'impression que comme Dieu est tout-puissant, qu'il est grand, qu'il est riche, qu'il est fort, etc., quand il prend notre place, quand il efface nos péchés, c'est juste qu'il efface l'ardoise. Ah, c'est pas grave. Il y a un budget pour ça. Ça ira dans les fonds perdus. Hein. C'est les pertes et profits, c'est les dégâts collatéraux, c'est. On a prévu ça. Donc, c'est pas grave. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que lorsque Christ a été sur la croix, de la même façon que symboliquement, parce que le pauvre agneau avait aucun pouvoir de faire ça, hein, dans l'Ancien Testament, lorsqu'un homme ou une femme, ou que ce soit, posait sa main sur la tête de l'agneau avant qu'on l'égorge, la symbolique était, ben, tout ce que j'ai fait de mal, tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu, je le transfère à cet animal, et il va mourir, et moi je pourrai vivre. Mais on savait que c'était juste une image des choses à venir. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'explique, le passage est un petit peu ardu à lire, mais dans Romains 3, 23, vous pourrez l'étudier plus chez vous si vous voulez, mais je vous lis ces quelques passages, Romains 3, de 23 à 27. « Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » C'est la verset 25. « C'est lui, donc Jésus, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre lui aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. » C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous vivons dans le temps et Dieu est hors du temps. Lorsque, dans l'Ancien Testament et jusqu'à la mort de Jésus et sa résurrection, un homme ou une femme, par la foi et dans un acte symbolique, posait sa main sur un agneau et l'agneau était sacrifié à sa place, c'est évident que cet agneau ne pouvait pas expier les péchés de l'être humain. Mais ce symbole-là était un témoignage devant Dieu qui, hors du temps, regardez, hein, un jour le véritable agneau va venir, Jésus-Christ, Dieu fait homme. Et cette période entre le moment où ça s'est passé dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, jusqu'au moment où Christ est venu mourir et ressusciter, c'est ce qui est appelé le temps de la patience de Dieu. C'est-à-dire que Dieu disait, je devrais les détruire, mais je retiens ma main parce que moi je vois déjà Christ qui va venir. Mais ce qu'on n'arrive pas, on ne peut pas le réaliser, hein, mais c'est que lorsque Christ a été sur la croix, il a pris notre place. C'est pas juste que, bon, il est mort, il est ressuscité, ce qui est déjà terrible, hein, mais il a pris toutes les horreurs que l'humanité a faites et va faire jusqu'à la fin des temps ont été réellement mises sur lui. Alors maintenant, il suffit de regarder une fois dans la semaine les informations, vous voyez ce qui se passe, hein, et les enfants qui sont violés, et les autres qui sont enlevés, et les gens qui sont abattus, et ci et ça, sans parler de toutes les conséquences de la maladie, de l'injustice, hein. Et puis, on ne peut pas visualiser la somme de ces choses-là, et il a pris notre place pour pouvoir ôter ce péché. C'est pas juste qu'il a dit, allez les gars, on efface l'ardoise, hein. Puis je fais un petit acte symbolique, et hop, c'est fini. Non. Il les a pris sur lui. Hein. Il s'est chargé de nos fardeaux. Et c'est quelque chose qui est incroyable. Mais si on le comprend un petit peu, c'est ce qui va nous aider à marcher de progrès en progrès. Pour avancer, on a besoin de motivation. Toujours, l'être humain est comme ça. S'il n'y a plus de motivation, on est malade. Et puis quand ça dure longtemps, ça s'appelle une dépression, et ça devient très grave, on peut en mourir. Hein. On a besoin de motivation. Mais la peur, la crainte et la culpabilité ne sont jamais une bonne motivation. Elles sont liées à la religion. Hein. Qu'est-ce que j'appelle religion? C'est les efforts que l'homme fait pour être accepté par Dieu. Et dans la religion, il y a toujours la culpabilité, la crainte et la peur qui agissent. Hein. Tu veux pas aller en enfer? Alors fais ça. Hein. Tu veux pas que Dieu soit fâché? Fais ça. Tu veux que Dieu t'aime? Fais ça. Tu veux pas perdre tes récompenses? Fais ça. Tu veux pas qu'il t'arrive un malheur? Fais ça. Hein. Et dans ces efforts-là, toutes les religions se valent, toutes se ressemblent. Il y a toujours des choses à faire, des choses à pas faire. On a peur, si je les fais alors qu'il faut pas les faire, ça va me tomber dessus. Hein. Christ est venu nous montrer un chemin nouveau, cette fameuse bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à faire, Christ a payé à notre place, on peut être réconcilié avec Dieu. Mais ce qu'on n'a pas compris, parce que souvent on n'a compris qu'une moitié du message, c'est ce que Christ a souffert à notre place. Et maintenant, quelle va être ma motivation pour me détourner du mal, du péché, de tout ce qui est mauvais? C'est de réaliser que ces choses-là ont été mises sur Christ. Imaginez que quelqu'un qui vous aime plutôt, quelqu'un que vous aimez, qui vous aime beaucoup, un parent ou un ami proche ou un frère ou une sœur, et puis vous commettez quelque chose de grave dans votre vie. Moment de colère, vous tuez quelqu'un ou je sais pas, vous volez et puis vous enfuyez avec et puis et cette personne-là décide d'aller se dénoncer à votre place. Et puis elle vous dit bon, je fais ça pour toi. Maintenant, tu as une deuxième chance. Vis ta vie comme il faut. Qu'est-ce que vous croyez qui va vous empêcher de recommencer? Ben oui, on peut dire la peur de la prison, mais on sait que la peur ça marche pas. Maintenant, quand vous allez commencer de vous dire j'ai mon père, mon frère, ma mère, ma sœur, qui vont passer leur vie en prison pour que moi je puisse vivre libre. Quand la tentation vient de recommencer, de faire autre chose, réaliser ça, c'est beaucoup plus fort que la peur. Parce que la peur, c'est bah, je fais une bêtise, j'en assume les conséquences. Après tout, je peux risquer encore une fois. Mais là, il ne s'agit pas de moi. Il y a quelqu'un qui m'aime et qui paye à ma place. Vous savez, il y a quelques années, plusieurs années maintenant, le film fait par Mel Gibson sur la crucifixion est sorti. Je ne vais pas débattre du film en lui-même. Moi, personnellement, je l'ai apprécié, même si c'était violent. Mais j'ai vu une interview faite à ce moment-là auprès de l'acteur et réalisateur. Et puis les gens lui disaient, mais bon, vous avez fait ce film, on sait que vous êtes un acteur de talent. Vous n'avez pas eu envie de jouer un rôle là-dedans, quelque chose? Et puis il dit, mais je joue dans ce film, mais bon, mais on ne vous a pas vu. Il dit, parce que vous ne m'avez pas reconnu, mais dans le film, les mains qui tiennent le marteau, qui enfoncent les clous dans les mains de Jésus, c'est moi, réellement. Il dit, mais pourquoi vous avez pris ça? Et puis il répond, et c'est tellement fort, il dit, parce que ce sont mes péchés qui ont crucifié Jésus sur la croix. Et alors, sa vie n'est peut-être pas exemplaire à côté d'un autre domaine, ce n'est pas la question, ça ne m'intéresse pas, on n'est pas là pour juger ça. Mais il avait cette compréhension-là, et c'est quelqu'un qui a une vie quand même assez compliquée, justement, qui a eu des problèmes avec l'alcool, avec la drogue, avec toutes ces choses-là, et puis c'est un croyant, il est ce qu'il est, mais... Et il avait compris, en fait, lorsque je pêche, c'est moi qui enfonce les clous dans les mains de Jésus, et puis surtout, c'est cette faute-là, il va pas juste, allez, on l'efface, non, il l'a prise sur lui. Et c'est pour ça que lorsque Jésus était à Gethsémané et qu'il y avait ce combat tellement violent au point de transpirer des gouttes de sang, bien sûr, il y avait, en tant qu'être humain, même s'il était Dieu, il y avait la peur de la souffrance physique, mais il y avait plus que ça. Pour quelqu'un qui est saint, jamais connu le péché, on ne peut pas imaginer ce que c'est, puisque nous, on est nés pécheurs, mais de se voir attribuer réellement devant la justice du Père toutes ces choses-là. C'est-à-dire que lorsque le Père allait regarder le Fils, il allait le voir comme un voleur, un violeur, un tueur, un assassin, un égoïste, un malhonnête, un tout ce que vous voulez. C'est ce qu'il allait réellement être pendant un instant pour que lorsque Dieu vous regarde et me regarde, il puisse réellement voir quelqu'un de parfait, alors que nous ne le sommes pas. Le message extraordinaire de l'Évangile, cette bonne nouvelle et la victoire de Pâques, c'est ça. Et nous avons besoin de le comprendre toujours plus, parce que c'est la seule motivation qui va nous faire progresser dans la sainteté. La peur, encore une fois, la crainte, toutes ces choses-là, c'est pas efficace. Ou ça marche pas, ou ça fait de nous des hypocrites. On a le choix, Ou on n'y arrive pas, ou on devient des bons pharisiens. Ah, moi j'y suis arrivé, Seigneur, Je te loue de ce que je suis pas comme le reste des hommes, Oh, quand je vois ces gens malhonnêtes, moi qui suis honnête, On peut devenir comme ça, ou alors si on n'a pas la force de caractère, on va dire, de toute façon j'y arrive pas, alors plutôt que de me battre, plutôt que de tomber tout le temps, j'aurais se coucher, c'est plus simple. C'est une autre philosophie de la vie. Mais il y a un autre chemin. Ce chemin que Paul nous éclaire dans 1 Corinthiens 13, la voie supérieure, celle de l'amour. Les choses les plus grandes accomplies, même au niveau humain, ont toujours été par cette force-là. Oui, la haine fait des choses terribles, la colère aussi, la peur aussi, mais l'amour amène au-delà. Quand tout s'arrête, ça continue encore. Et nous avons besoin de comprendre ce que Christ a fait pour nous, ce que ça veut dire. Il a pris notre place pour pouvoir avancer dans une vie de sainteté. Sachant que c'est là que se trouve le bonheur. La sainteté, c'est pas renoncer à tout ce qui est agréable, intéressant, pour aller s'ennuyer avec des choses inintéressantes. C'est pouvoir devenir ce pourquoi nous avons été créés. Remplir pleinement ce que Dieu a voulu que nous soyons, que nous devenions vraiment. L'apôtre Pierre rappelle ceci, je vous le lis dans 1 Pierre 1,18 jusqu'au verset 20. Vous avez été libérés de la manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or, non. Il a fallu que Christ, comme un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Il nous a sauvés de la manière vide, vaine, inutile, futile que nous avions héritée de nos ancêtres. C'est intéressant parce que lorsque la Bible dit ça, elle s'adresse à toutes les cultures, à tous les peuples, à tous les temps. Il n'y a pas une façon qui est meilleure qu'une autre. Elles sont toutes différentes. Mais elles sont toutes les mêmes. Quelle que soit la culture dans laquelle nous sommes nés, l'époque ou le pays où nous vivons, qu'est-ce qui règne ? L'égoïsme, moi d'abord. Le légalisme, je suis meilleur que l'autre. M'occuper de moi. Et puis, ça prend des formes diverses, mais il n'y a que ça partout. Et nous avons été rachetés de cette façon de vivre, pas par quelque chose qui peut être comptabilisé, payé de l'argent, de l'or, mais par le sang de cet agneau sans tache. Parce qu'il fallait effectivement que Christ soit, que l'agneau, Christ, soit pur, parfait, saint, pour que le sacrifice puisse être valable. C'est pour ça que un être humain qui se sacrifie pour un être humain, c'est extraordinaire. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais en même temps, je ne peux pas racheter quelqu'un de ses péchés parce que je suis moi-même pécheur. Si quelqu'un échange sa place avec moi, c'est un pécheur qui échange sa place avec un pécheur. On n'a rien gagné. Mais Christ, lui, était la seule, si on peut dire comme ça, monnaie d'échange qui était apte. Et c'est pour ça que lorsque Paul, après, avec cette compréhension-là, et il a une compréhension très très forte de la grâce de Dieu, vient écrit aux Corinthiens, par exemple, comme je l'ai déjà dit, ces gens qui, dans cette église, il y avait de la débauche, il y en a qui, quand ils prenaient la communion, il y en a qui étaient sous tellement qu'ils buvaient, ils ne s'attendaient pas les uns les autres, c'était vraiment le bazar dans cette église. Et quel intitulé l'apôtre Paul met au début de la lettre, des deux, aux saints qui sont à Corinthe. Alors on peut se dire, ouais, c'est une stratégie, vous savez, comme les coachs aujourd'hui, si on prêche le positif, ils vont le devenir. Est-ce que vous imaginez Paul dans ce genre de raisonnement ? Ça ne correspond pas au bonhomme, Pas du tout. Non, Paul disait ça parce que c'était une réalité spirituelle. Il avait compris. Rappelez-vous, il a été enlevé au ciel et il a vu des choses qu'il n'avait même pas de mots pour dire, qui ne lui ont pas été permises de raconter. Il a eu une compréhension de la grâce de Dieu extraordinaire. Et il en avait particulièrement besoin puisqu'il était un assassin multirécidiviste qui s'était spécialisé dans la destruction des chrétiens. Donc il fallait qu'il comprenne la grâce de Dieu. Et il avait compris que malgré ça, Dieu pouvait le voir pur. Pourquoi ? Parce que ces choses-là avaient été mises sur Christ. Mais c'est pas par hasard que lorsque Jésus arrête Paul sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il lui dit ? Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Moi, je t'ai jamais rien fait. Moi, je poursuis des hérétiques, là. Non, Paul, c'est moi que tu tues. chaque fois que tu persécutes un de ses croyants. Alors, il y a un double sens, bien sûr, que l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, donc on touche à la famille de Dieu, mais aussi, chaque fois que Paul commettait un meurtre, parce que c'était des meurtres, ces meurtres-là, ils ont été mis sur le compte de Christ. Paul était là avec son marteau, lui aussi, en train de clouer Jésus-Christ sur la croix, et il l'avait compris tellement fort qu'il pouvait dire, sans fausse modestie, c'était pas une formule pour faire bien, hein. Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je peux vous garantir qu'il en était pleinement convaincu. Encore une fois, pensez à ça, hein. Pendant quelques années, son travail à plein temps, puis il devait faire plus que 32 heures par semaine, c'était trouver les chrétiens et les faire mourir en les torturant, parce que mourir avec, c'était pas la chaise électrique, c'était en jetant des pierres dessus jusqu'à ce que mort s'en suive. C'était une horreur. Et ça a été validé par la résurrection. Parce que cet agneau pur qui prend le péché de l'humanité et le Père qui se détourne de lui pendant un moment, ce cri de Jésus sur la croix où personne ne répond, hein, quand Jésus crie, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis, il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de retour. Le Père ne peut pas lui dire, écoute, je suis avec toi, tiens bon. Non, parce que dans ce moment-là, comme la Bible nous le dit, il a été fait péché à notre place. Ce n'est pas des expressions symboliques, c'est une réalité. Qu'on a dû, on peut pas le comprendre, hein, mais toute cette saleté-là, et c'est pas le bon mot, mais a été littéralement transférée sur lui et il a porté. Et c'est de ça qu'il est mort. Hein. La crucifixion était une torture horrible parce qu'on pouvait prendre des jours et des jours avant de mourir. Les clous, on les mettait pas dans les mains, c'était dans les poignets pour que ça tienne ici entre les os là. Les clous dans les poignets et dans les pieds. La douleur est horrible, mais on n'en meurt pas. Comment on mourait de la crucifixion? On mourait asphyxié. Parce qu'en fait, la position avec les bras tirés, la seule façon de pouvoir respirer, c'était de pousser sur les jambes. En poussant sur les jambes, vu que les clous sont plantés dans les pieds, il y a une douleur terrible. Mais tant que l'organisme peut, on se bat pour vivre. Donc ça pouvait prendre 2-3 jours avant que les gens meurent d'épuisement étouffé. C'était une torture horrible. En tout cas, avant ça, on les avait fouettés, donc le dos qui était complètement à nu, sans peau, qui était collé contre le bois. Chaque fois qu'on poussait, ça s'arrachait de nouveau. Horrible. Et pour éviter que ça dure aussi longtemps, c'était une mesure de clémence. Hein. On venait des fois leur briser les jambes en fin de journée. Ils avaient souffert une journée, c'est horrible. Mais au lieu de souffrir 3 ou 4, on leur brisait les jambes, donc ils ne pouvaient plus pousser. Et ils allaient s'étouffer en quelques heures au lieu de souffrir encore pendant 2-3 jours. Donc on est vraiment dans des choses horribles. Hein. Mais lorsque les soldats viennent pour briser les jambes des 3 condamnés à mort, ils le font aux 2 brigands qui étaient à droite, à gauche de Jésus-Christ, et ils constatent que Jésus est déjà mort. Il était déjà mort. Qu'est-ce qu'il a tué si vite? Jésus était autant résistant que les 2 hommes qui étaient à droite ou à gauche. Hein. Son cœur a lâché, littéralement, sous le poids de... Je trouve pas de mots, mais de la saleté, de l'infamie, de tout ce qui avait été mis sur lui. Hein. Vous voyez le sentiment qu'on éprouve quand on voit quelque chose d'horrible, qu'on entend. Hein. Surtout, ce qui nous touche le plus souvent, c'est vis-à-vis des enfants. Hein. Voilà, ce gars qui a enlevé une petite gamine, il a violé, torturé, puis tué. Hein. Ça, c'est un. Combien il y a eu de choses comme ça depuis que l'humanité existe? À commencer par Caïn qui a tué Abel, et puis ça s'est enchaîné hein, jusqu'à aujourd'hui. Plus tout le reste, hein, toutes les horreurs qu'il y a. Imaginez qu'on condense tout ça et qu'on le mette sur le compte d'une personne. On lui met dessus réellement. Et c'est ce qui a tué Christ. Et c'est pour ça que maintenant, ce qui va m'aider à mener une vie droite, encore une fois, sans hypocrisie, parce que ben, souvent, si j'y arrive pas, c'est de réaliser que lorsque je choisis de faire le mal, lorsque je choisis d'aller dans la mauvaise direction, en fait, c'est comme si j'allais chercher les gens qui ont crucifié Jésus, hein, volontairement, puis je leur dis, vous savez quoi les gars, je vous trouve sympa, vous venez boire un apéro à la maison? Allez, venez, on va se faire une petite fête ensemble. Hein. Non. Hein. Imaginez encore une fois que quelqu'un ait tué quelqu'un de proche. Hein. On a assassiné votre père, votre mère, votre enfant, si vous en avez, votre frère. Et puis, cette personne est relâchée. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée d'aller l'attendre à la sortie en disant, bah, écoute, tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est qu'on aille prendre l'apéro ensemble. Hein, un petit verre tous les deux pour discuter. Non. Hein. Ce qui nous ferait plaisir, c'est de lui couper la tête. Mais ça, ce serait trop rapide. Donc, éventuellement, de... bon. Les bambous sous les ongles, hein, les petits machins qui durent longtemps. D'accord. Mais lorsque je comprends que le péché, le mien, hein, donc tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu, c'est ça qui a crucifié Jésus-Christ. Donc lorsque je suis devant le choix de choisir, qu'est-ce que je fais? J'obéis à Dieu ou je vais là? Dieu va m'aimer pareil, ce qui est le pire. Il va me faire aucun reproche. Hein. En fait, je vais aller boire un verre avec ceux qui a crucifié Jésus-Christ, mon péché. Lorsque je comprends ça, je vais trouver plus de force là-dedans pour marcher dans la sainteté que si je me disais, si je le fais, Dieu va me mettre un coup de bâton. Bon, ben, des fois, ça mérite un coup de bâton, tant pis, je vais m'amuser un peu, je prends un coup de bâton. Mais là, c'est autre chose. Et là-dessus, Christ est ressuscité. Donc, je dirais c'est une deuxième chose. Et qui est extraordinaire, c'est que tout ce qui avait été mis sur lui, ben, ça n'a pas pu le retenir dans la mort, parce qu'il était saint, parce qu'il était juste, parce qu'il était pur, et il est ressuscité. Et c'est pour ça que, vous savez, si vous réfléchissez, qu'est-ce qui enthousiasme le cœur des humains, quelle que soit l'histoire, le récit, ce qui se passe, c'est toujours la grâce et la résurrection. Pensez à toutes les histoires que vous voulez, il y a toujours une ou l'autre ou les deux, ces choses-là. Depuis les contes pour enfants qu'on aime, jusqu'à toutes les histoires qui nous émeuvent, il y a toujours ces choses-là. On a été fait pour ça, pour répondre à ça. Hein. Et Pâques, effectivement, c'est la clé de voûte, c'est le concentré. C'est vrai que souvent on peut dire on fête plus Noël que Pâques ou ci ou ça, mais Pâques, c'est vraiment la clé de voûte de notre foi. S'il n'y a pas de Pâques, la foi chrétienne est vide. C'est une religion de plus, des efforts de plus. Il y a peut-être une bonne morale, il y a une éthique intéressante, il y a des pensées sympathiques, hein, il y a des choses intéressantes au niveau de la non-violence avec Jésus. C'est bien, c'est que des bonnes choses. Mais la différence, c'est qu'il y a eu, premièrement, cette réalité, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui est mis à mort par ce péché. Et puis, sa résurrection, ça n'a pas pu le garder. Tout le reste, tout notre péché est resté dans la mort et lui est sorti seul. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est cette compréhension-là qui transforme les gens. Lorsque les disciples qui avaient rien compris, qui avaient peur, s'enfuyaient de Jérusalem pour retourner à leur ancienne vie, Jésus les rencontre, et puis ce fameux passage hein, où il est dit, et au travers des Écritures, il leur expliqua tout ce qui le concernait. De quoi il leur a parlé ? Ben, ces choses-là, beaucoup mieux que moi, bien sûr. Hein, mais, vous voyez, l'agneau, vous vous rappelez Abraham, et puis ça, et puis Moïse avec la Pâque, et bien, en fait, c'est moi. Et au fur et à mesure qu'il leur expliquait ces choses-là, leur cœur se mettait à brûler. Résultat, ces gens qui avaient peur et qui s'enfuyaient de jour, au milieu de la nuit, ils se lèvent et ils retournent vers le danger. Et ces mêmes gens-là vont, quelques temps plus tard, après la Pentecôte, hein, quelques semaines plus tard, vont accepter de se faire fouetter pour Christ. On leur dit « Taisez-vous !»« Non, non, si vous voulez qu'on se taise, il va falloir nous couper la tête parce qu'on ne se taira pas. » Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ils avaient peur avant. Ils ont été bouleversés par cette compréhension-là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis, il est mort à cause de ça, mais il est ressuscité. Alors, il n'y a plus rien qui peut nous retenir. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Hein, le dernier ennemi, c'est quoi? C'est la mort. Mais pour nous, c'est pas la fin. C'est le début. C'est l'entrée dans la vraie vie. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, après, il y a notre réalité. Ben, je sais ça, mais jour après jour, je pactise avec ma faiblesse, avec ma lâcheté, avec ma fainéantise, avec mon manque de conviction, avec mon manque d'amour, avec mon manque de pardon, et toutes ces choses-là. Dieu le sait, et il continue de ne pas nous accuser. Mais ce qu'il veut, c'est nous révéler son amour, la valeur, le prix de ce qu'il a fait pour nous, pour que ça nous bouleverse tellement qu'on le suive, pas par peur, pas pour obtenir quelque chose, on a déjà tout, mais à cause de ce qu'il a fait, bouleversé par cette réalité. C'est le seul but de nos vies sur terre, hein, parce que c'est la seule chose qui le glorifie vraiment. Deux derniers dimanches, je parlais de la louange, de l'adoration, alors qui s'exprime dans nos chants, dans toutes ces choses-là, et c'est important. Hein. Mais le fond de tout, comment nos vies vont réellement glorifier Dieu, ben, elles le glorifient chaque fois que je me décide à suivre Jésus-Christ, pas à cause de la peur, pas à cause de la culpabilité, pas par obligation, mais par amour parce que j'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Lorsque je fais ça, c'est la fête dans le ciel. C'est la chose qui glorifie Dieu le plus. Il appelle tous les anges, il appelle les démons, il dit, regardez, allez, vous avez vu ? Ça marche. Oui, bon, un quart d'heure dans toute une vie, c'est pas grave, ça marche, ça existe, c'est possible. C'est ça que je veux. Et tout ça, c'est possible à cause de ce que Christ a fait.